Laudetur Jesus Christus.
Le Vatican appelle à prier pour le pape tous les soirs place Saint-Pierre. À partir de ce lundi, les fidèles y sont invités à réciter le rosaire. Ils le font déjà dans de nombreux pays du monde. Nous irons en Syrie dans un an. L'Ukraine, attaquée par Moscou, entre dans sa quatrième année de guerre. Elle a perdu 20% de son territoire et le soutien inconditionnel des États-Unis de Donald Trump. 12 dirigeants occidentaux étaient cependant à Kiev ce lundi, accueillis par une alerte aérienne. Nous irons sur place. Et puis dans ce journal, vous entendrez également le nonce apostolique dans le pays, Monseigneur Kubolka. Revient pour nous sur le sort des détenus ukrainiens. Et enfin, nous irons à Addis Abeba. Depuis ce jour, les Érythréens opposants au régime d'Asmara disposent en Éthiopie d'un bureau et ainsi d'une relative liberté d'expression.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. 11e jour d'hospitalisation pour le pape atteint, on le sait, d'une double pneumonie. Le Saint-Père se repose dans sa chambre du Gemelli. Il est alerte, de bonne humeur. Hier, le Vatican faisait état d'une légère insuffisance rénale sous contrôle. Son prognostic reste cependant réservé en raison de la complexité du tableau clinique. Un nouveau bulletin de santé est attendu ce soir. Et à partir de ce lundi à 21h, les fidèles de Rome sont donc invités à se rendre place Saint-Pierre pour réciter le rosaire aux côtés des cardinaux résidant dans la ville éternelle et des consacrés du diocèse de Rome, le diocèse de François. Ce soir, la prière sera présidée par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin. Et parmi les nombreuses initiatives de prière pour le prompt rétablissement de François, les fidèles syro-catholiques de Homs en Syrie réciteront eux aussi le chapelet à l'invitation de leur archevêque.
Dans toutes les paroisses, les 12 paroisses de notre diocèse, on fait tous les jours les chapelets pour sa santé parce que on connaît très bien combien la Syrie était dans le cœur et dans la prière de tous les jours du pape François. Donc ça c'est le moins qu'on peut faire pour lui, c'est de prier pour lui, pour sa santé, parce que l'Église a besoin de lui. Sa mission pour le renouvellement de notre Église, que soit une Église de toute la population, de tout le monde, ce n'est pas encore complété cette mission du pape François. Donc, on a besoin de lui encore.
Monseigneur Jacques Mourad, l'archevêque syriaque catholique de Homs, au micro de Jean-Charles Puzolu. Unité territoriale, justice, liberté publique ou individuelle en Syrie, justement, s'est ouvert aujourd'hui. Et cet après-midi, un long processus, une conférence de dialogue national qui était préparée déjà lors de nombreuses rencontres dans plusieurs provinces du pays. 4000 hommes et femmes y ont participé à l'appel d'un comité de sages désigné par le nouveau pouvoir de Damas, une coalition dominée par les islamistes. La conférence qui débute ce jour a pour objectif de jeter les bases d'une future déclaration constitutionnelle. Et puis ce lundi, toujours en Syrie, autre étape importante pour le pays, l'Union européenne vient de suspendre les sanctions prises à l'encontre du régime de Bachar el-Assad concernant le secteur bancaire, de l'énergie ou encore des transports. À la une de l'actualité internationale, bien sûr, le pire conflit en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce lundi marque en effet le 3e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Moscou contrôle donc aujourd'hui 20% du territoire ukrainien, une position de force que vient consolider le revirement des Américains. Demain, à Riyad, une nouvelle rencontre américaine-russe aura lieu en l'absence de Kiev pour évoquer l'avenir. Et en réponse à ces tractations, l'UE, elle aussi sur le banc de touche, cherche à muscler son soutien à Kiev. Ce lundi, depuis Kiev, Ursula von der Leyen a annoncé une nouvelle aide européenne de 3,5 milliards d'euros. Idem pour les pays baltes, nordiques et baltes, donc qui s'engagent aux côtés des Ukrainiens. En tout, ils étaient une douzaine de dirigeants occidentaux en visite dans la capitale ukrainienne aujourd'hui. Sur place, Bastien Bory.
C'est par une sirène d'alerte anti-aérienne que ces leaders ont été accueillis lundi à leur arrivée à la gare de Kiev, au moment où, de l'autre côté de la frontière ukrainienne, un chasseur russe MiG-31 emportant des missiles s'apprêtait à décoller. Fausse alerte, mais vraie action de dernière minute pour Bruxelles, qui tente de faire front commun en réaffirmant à rebours de la diplomatie américaine que le soutien à l'Ukraine durera. Le président Zelensky, lui, laisse entrevoir aujourd'hui l'idée de la fin de cette guerre ravageant l'Est du pays. 2025 devrait être l'année du début d'une paix réelle, a-t-il dit dans une vidéo postée lundi sur les réseaux sociaux. 3 ans de résistance et d'héroïsme des Ukrainiens, a-t-il ajouté. Mais son armée pourra-t-elle vraiment compter à l'avenir sur un soutien efficace des Européens qui, par la voix du potentiel futur chancelier Friedrich Merz, arrivé dimanche en tête des législatives allemandes, appellent à la création d'une défense européenne autonome comme alternative relative à l'OTAN. En attendant, c'est vers les terres rares ukrainiennes que les esprits sont tournés. En échange d'un accord de paix, Donald Trump veut récupérer le montant de l'aide fournie à Kiev par Joe Biden en obtenant un accès aux ressources minières de l'Ukraine, ce que Zelensky a exclu. Bastien Bourry à Kiev pour Radio Vatican.
Et malgré ce rejet spontané du président Zelensky, l'Ukraine a dit ce soir être en train de finaliser ses pourparlers avec Washington sur les minerais. Le sujet sera sans doute en tout cas au cœur d'un entretien cet après-midi entre les présidents américains et français à Washington. Emmanuel Macron est reçu à la Maison-Blanche. Tous les deux devraient prendre la parole à l'issue de leur rencontre à 21h ce soir, heure de Rome. Et puis signalons enfin qu'en France, le consulat de Russie à Marseille a été pris pour cible. Moscou dénonce une attaque terroriste. La Russie, qui se dit aujourd'hui déterminée à ne cesser les hostilités en Ukraine qu'une fois qu'elle aura obtenu ce qu'elle désire, une reddition de l'armée ukrainienne, pas d'adhésion du pays à l'OTAN et 5 régions aujourd'hui partiellement occupées par ses troupes. Dans ces territoires, les arrestations sont légion, les prisonniers civils sont les grands oubliés de ce conflit, souligne le nonce apostolique Monseigneur Kubolkas dans une interview accordée à la rédaction ukrainienne de Radio Vatican.
Je partirai d'un exemple pour souligner ce qu'est la guerre et du récit d'une personne, une civile d'une soixantaine d'années qui a été retenue prisonnière en Russie pendant presque 3 ans. Elle m'a raconté qu'elle a traversé une période très difficile au cours de laquelle elle a été privée de sommeil pendant plusieurs semaines, ce qui est un moyen de torture. Et elle disait que rien que cet aspect, le fait de ne pas pouvoir dormir pendant 2 ou 3 semaines, génère une grande difficulté. Elle ne parvenait plus à comprendre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce qui correspond à la réalité? Qu'est-ce qui est fantaisie ou suggestion? Elle ne se rappelle même plus ce qu'elle a signé, car souvent, au cours des interrogatoires, il est demandé aux prisonniers de signer des documents. Donc ça, c'est le monde dans lequel se trouvent plusieurs milliers de personnes. Et jusqu'à présent, moi-même, je n'ai trouvé aucun moyen efficace qui puisse fonctionner. Et à nouveau, je confie la situation de ces milliers de prisonniers dans une situation désespérée à la prière de tous. Car seul le Seigneur Tout-Puissant peut donner de l'espérance contre toute espérance, comme le Saint-Père lui-même l'a écrit dans la bulle d'indiction du Jubilé.
Monseigneur Kubolkas, le nonce apostolique en Ukraine, des propos recueillis par Svitlana Dukovic. Et puis soulignons que ce lundi, les évêques ukrainiens latins organisent une journée de prière pour la paix. Des résultats sans surprise en Allemagne au lendemain des élections législatives anticipées. Les chrétiens démocrates sont arrivés en tête des élections avec 29% et doivent maintenant former une coalition pour gouverner le pays. Ils promettent de le faire sans l'AFD, le parti d'extrême droite qui a fait une percée historique avec 20% des suffrages. Le score de l'extrême droite est un dernier avertissement au parti modéré, a affirmé tout à l'heure dans une première déclaration le futur chancelier Friedrich Merz, qui a assuré ce lundi son soutien au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, pourra se rendre en Allemagne malgré le mandat d'arrêt de la CPI, a-t-il dit. Ils pourront s'exprimer sans crainte d'être arrêtés. Les opposants à l'une des plus féroces dictatures au monde, l'Érythrée, viennent d'ouvrir un bureau en Éthiopie. Ce feu vert a été obtenu dans un contexte de tensions croissantes entre les deux pays voisins. Augustine Passilli.
Depuis 3 ans, les opposants à la dictature érythréenne tentent de se fédérer au sein du mouvement de la Révolution bleue. La semaine dernière, ces exilés ont franchi un pas supplémentaire en établissant leur bureau à Addis Abeba. La mission première est de soutenir les plus de 179 000 Érythréens réfugiés en Éthiopie. Par exemple, en faisant libérer ceux qui ont été emprisonnés car ils se trouvaient en situation irrégulière. Des cartes d'identité reconnues par les autorités éthiopiennes leur sont également délivrées. L'autre volet consiste à mettre au point une feuille de route pour faire tomber le régime du président Isaias Afwerki, qui gouverne l'Érythrée d'une main de fer depuis son indépendance en 1993. Le service militaire est à durée indéterminée, les arrestations arbitraires, la torture et les disparitions forcées y sont courantes. La connexion Internet est en outre volontairement ralentie pour empêcher toute activité révolutionnaire. Alors les partisans de la Révolution bleue comptent installer des récepteurs Starlink à la frontière. À terme, ces activistes n'excluent pas de prendre les armes. Si le gouvernement éthiopien les a autorisés à ouvrir cette antenne dans la capitale, c'est parce que ses propres relations avec Asmara sont déplorables depuis la fin de la guerre dans la région éthiopienne du Tigré. L'Érythrée a en effet été exclue de l'accord de paix de Pretoria. Addis Abeba, Augustine Passy pour Radio Vatican.
En RDC, l'autre conflit loin des radars se poursuit avec la menace réelle d'une avancée des combattants du M23 dans le sud Kivu. Selon la première ministre congolaise en visite à Genève, le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo a coûté la vie à plus de 7000 personnes depuis le début du mois de janvier. Enfin, au Soudan, l'ONG française Médecins Sans Frontières annonce suspendre ses activités dans le camp de déplacés de Zamzam frappé par la famine. Le camp est situé au sud d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord. Il abrite au moins 1,5 million de personnes. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité aux ondes de Radio Vatican. L'actualité du monde, de l'Église dans le monde et bien sûr du Saint-Père revient demain matin 8h30. D'ici là, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet vaticannews.va. Excellente soirée.